Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Quel beau verset, frères et sœurs, en ce dimanche du baptême du Seigneur. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quelle belle parole pour nous, baptisés, fils et filles du Père, bien-aimés que nous sommes dans son amour. Voici mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour, écoute-le. Quelle belle parole pour vous, chère Gloria, chère Joy, aujourd'hui où vous recevrez pour la première fois de votre vie le corps et le sang du Christ, l'Eucharistie du Seigneur. Alors il s'agit, frères et sœurs, il s'agit Joy, il s'agit Gloria, dans cette parole, dans ce verset, dans cette annonce de la voix du Père, de la voix du Père lui-même. Alors dans les évangiles, la voix du Père se fait entendre quelquefois, mais c'est assez rare, donc c'est des paroles qui sont d'autant plus précieuses et que nous pouvons savourer aujourd'hui. Souvenons-nous de quand le Père parle directement dans les évangiles, eh bien nous nous souviendrons de trois moments clés. Au baptême, Jésus, à la crucifixion du Sauveur et à la transfiguration de notre Seigneur qui est anticipation de la résurrection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, est-il dit par le Père au baptême. Je l'ai glorifié et je le glorifierai à nouveau, dit le Père alors que Jésus entre dans les affres de sa passion. Et celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, une répétition pour dire combien c'est important. Eh bien, c'est la parole qui également est prononcée par le Père sur la montagne de la Transfiguration. Ainsi donc, la voix du Père se fait entendre dans le creux de la vallée, au bord des eaux du Jourdain, au pied du Golgotha, dans ce jardin où Jésus vivra la passion rédemptrice, et au sommet du Tabor, là-haut sur la montagne, dans la nuée lumineuse qui nous annonce la résurrection. Oui, Dieu est fidèle, frères et sœurs, tout au long de notre vie. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Tu es là qui me console, pouvons-nous chanter avec le psalmiste. Devant moi, tu apprêtes une table, la table de la communion. Ceci, tu la dresses, cette table, face à mes adversaires. Et d'une onction baptismale, tu me parfumes la tête. Ma coupe, ta coupe eucharistique, elle déborde de la vie que tu nous partages. Oui, grâce, bonheur, nous accompagne jour après jour dans notre vie. Notre demeure, c'est d'être, frères et sœurs, en présence du Seigneur jusqu'au sommet de nos jours, jusqu'à contempler enfin son visage. Car il est là, fidèle, ce Seigneur, tout au long de notre vie et à travers toutes sortes de circonstances. Car c'est bien en effet le mystère de sa présence continue, de sa présence continue à travers nos vies et à travers l'histoire, de sa présence continue qui nous est révélée par le baptême dans le Jourdain. Pourquoi en effet, frères et sœurs, Jésus a-t-il choisi de se faire baptiser par Jean là-bas dans les vallées du Jourdain? Pourquoi il a voulu être baptisé par ce baptême du repentir administré par son cousin Jean le Baptiste? Étant Dieu sans péché, Jésus n'avait en soi pas besoin de ce baptême de repentir. Mais en tant qu'homme Verbe fait chair, Jésus veut, il choisit d'être solidaire en tout de notre humanité. Alors le voici donc qui s'avance sur les bords du fleuve. Le voici, homme parmi les hommes, qui s'inscrit dans ce rituel judaïque du baptême. Le voici qui obéit humblement aux prescriptions de la loi de la première alliance. Et ce faisant, il ouvrait une signification nouvelle à une alliance nouvelle, ce rite du baptême, car en descendant dans l'eau du Jourdain, oui, c'est lui-même, Jésus le Saint, Jésus le Sauveur, Jésus notre Rédempteur, c'est lui-même qui sanctifiait ces eaux. Et, ainsi, il rendait ces eaux sanctifiantes. Par l'eau de ses baptêmes au Jourdain, Jean faisait alors un rite qui ouvrait au repentir. Par l'eau de ses baptêmes tout autour de la terre, l'Église fait aujourd'hui un rite qui ouvre, qui nous ouvre, qui ouvre chaque enfant de Dieu à la sainteté. Oui, à la sainteté. Car, frères et sœurs, le voici le terme de notre propre baptême, la sainteté. Cette sainteté baptismale, c'est quoi ? C'est d'être libéré du péché et du mal. C'est d'être sanctifié par Jésus, le Sauveur en personne. Et c'est de devenir nous-mêmes, à travers notre vie, acteurs de bien sur notre terre. Ressortant des eaux du Jourdain, manifestées par l'action de l'Esprit-Saint, Jésus est, nous dit saint Pierre, et j'aime beaucoup cette parole, passé sur notre terre en faisant le bien. Le baptême, la sainteté, passé en faisant le bien, au creux des vallées, à l'ombre de nos croix, et dans la lumière de la résurrection, qui s'inaugure dans nos actions de justice, de bonté, de vérité, voilà la route de notre vie baptismale. Voilà la voie que jour après jour l'Eucharistie nous permet de parcourir. Car une fois nous avons été baptisés, plus tard confirmés, et régulièrement nous pouvons, pour nombre d'entre nous, nous nourrir à la communion eucharistique, c'est-à-dire au corps et au sang de Jésus lui-même qui se donne en nourriture pour nous donner sa vie, afin que nous en vivions et en fassions vivre d'autres autour de nous. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie sont ces sacrements qui nous initient à cette vie de sainteté, qui nous font rentrer dans ce pèlerinage, qui nous apprennent comment suivre Jésus. C'est ce que me disait hier Joy. Comment suivre Jésus ? Le suivre pas après pas, jour après jour, dans les événements qui nous arrivent. Oui, le fleuve de l'eau du Jourdain, depuis le jour de notre baptême, ne cesse donc d'irriguer nos vies, si nous sommes fidèles à ses grâces. Et d'ailleurs, si nous considérons un fleuve, généralement, sauf de rares exceptions, le fleuve va toujours en augmentant son débit ou en élargissant son lit. Rarement un fleuve va en se rétrécissant, sauf exception. Eh bien, c'est pareil dans notre vie. Ce qui a été déposé au jour de notre baptême doit peu à peu s'agrandir et s'élargir dans notre existence. Et nous en sommes responsables de cette eau vive. Ce fleuve d'eau vive, cet esprit, frères et sœurs, qui nous sanctifie, ce pain vivant que vous recevrez, Joy et Gloria, aujourd'hui, eh bien, ils sont appelés à transformer, jour après jour, tout au long de ce pèlerinage, à transformer notre être, à transformer nos réactions, à transformer nos paroles et nos silences. C'est le chemin de la conversion, c'est le chemin de la sainteté. Ceci, que ce soit justement dans ce creux des vicissitudes, dans les angoisses de l'inconnu, ou encore dans ces sommets lumineux de nos vies. Il y a 10 ans, jour pour jour, donc le 12 janvier 2010, il y a eu cet énorme séisme qui a chamboulé Haïti. c'était quelques minutes avant 17h, en fin d'après-midi, et ce séisme, nous le savons, a fait plus de 280 000 morts et a mis sans abri plus de 1,5 million de personnes. Quelques semaines après cet événement, j'ai rencontré une Haïtienne qui d'ailleurs est peut-être ici parmi nous dans l'Assemblée aujourd'hui. Et justement, cette femme, voyez-vous, c'est une femme qui est habitée par les flots de son baptême, qui est nourrie par l'Eucharistie, qui est vivante de cet esprit de sa confirmation. Alors, avec elle, on parlait et je lui demandais comment elle avait vécu les heures après le séisme, ce qu'elle avait fait. Alors, elle m'a retracé peu à peu tout ce qu'elle avait fait pour, comme action de bien, voyez-vous, au milieu des décombres du désastre. Elle m'a retracé ses actions pour retrouver les êtres qui lui étaient chers, pour aider, pour porter secours, prendre soin de blessés. Et puis, frères et sœurs, cette dame, elle m'a raconté la première nuit, c'est-à-dire la nuit du 12 au 13 janvier, à Port-au-Prince, où elle était. Elle me racontait qu'en fait, elle voyait les étoiles à travers le toit du fait de la destruction de la bâtisse où elle se trouvait. Elle voyait les étoiles à travers les brèches du toit et en même temps, elle entendait dans la nuit, dans les ténèbres, elle entendait monter des chants de prière, voyez-vous, frères et sœurs. Et ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup marqué. Elle attendait à Port-au-Prince ces chants de prière, des chants de supplication dans la douleur, mais aussi, et elle insistait, c'est cela qui m'a le plus marqué, que c'était également des chants d'action de grâce pour la vie qui demeurait, d'après son récit. Oui, cette femme, ces gens qui chantaient et qui continuent peut-être aujourd'hui de chanter à la fois dans la douleur et dans l'action de grâce, ces personnes, ils se savaient filles et fils bien-aimés du Père. Ils avaient cette capacité spirituelle de voir, par-delà l'incohérence apparente du désastre, qu'il demeurait malgré tout la joie de Dieu, leur consolation. Ils expérimentaient que malgré le vacarme souvent assourdissant de notre monde, ils pouvaient continuer à tendre l'oreille et à entendre cette voix aimante du Christ Sauveur et de son Père nous aime. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Voilà cette parole, voilà ce verset, voilà ce message. Ceci, Gloria et Joy, et vous tous, frères et sœurs, nous tous, nous sommes les fils et filles bien-aimés de ce Dieu qui nous aime. Nous sommes sa joie éternelle. Dans les vallées où rôde la mort, mais où aussi coule le fleuve de la vie, au pied des monts de nos inconnus, qui sont aussi ouverture au possible de nos existences dans le futur, sur les sommets lumineux de nos résurrections, qui sont ces lieux d'où nous partageons la bonté reçue du Père, soyons, oui, soyons, frères et sœurs, ces fils et filles bien-aimés de Dieu, animés de l'eau et de l'esprit, nourris de l'Eucharistie, et nous aussi, sous les yeux bien-aimés de ce Dieu qui nous aime, à la suite de Jésus, passons sur cette terre en faisant le bien. Amen.